professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Quelle est l'expansion du système d'enseignement secondaire et supérieur depuis un demi-siècle? Quelle est l'évolution du parcours des élèves au fil des différentes séries de transitions, de la sixième à la seconde jusqu'à la bifurcation du bac? Que vaut l'accès au baccalauréat, aux études supérieures? Quel est le rôle des politiques scolaires en France pour éliminer la sélectivité? Quel est le paradoxe qui met en rivalité la démocratisation quantitative et la démocratisation qualitative? Comment jouent les mécanismes de sursélection? Quel est le rendement des études? Comment les mathématiques peuvent-elles devenir une horloge déterminante pour hiérarchiser les écoles? Comment les inégalités sociales peuvent-elles se reconstituer après le bac? Comment l'inégalité peut-elle devenir plus méritocratique? Pierre-Michel Minger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, nous présente ce matin et demain matin différentes enquêtes sur le temps long qui nous montrent l'expansion du système d'enseignement dans le secondaire et dans le supérieur en France, mais aussi ses mutations. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Pierre-Michel Minger sur la production du savoir, carrière, discipline et organisation, le 22 janvier 2016.
Les données que les sociologues et les économistes ont rassemblées et analysées sur les systèmes de formation et leur lien avec l'emploi, le salaire et la carrière permettent de documenter toute une série de faits sur l'évolution, sur l'état présent du système de formation et sur sa relation à l'emploi et la rémunération des investissements en formation. Ce que on sait très bien maintenant, c'est à quel point l'augmentation du niveau d'éducation des générations successives a été continue et remarquable depuis un demi-siècle. La durée des études s'est considérablement allongée, essentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moins de la moitié des jeunes de 14 ans étaient scolarisés en 1946. La scolarité obligatoire a été instaurée en 1959 par une réforme Berthoin et ici, vous avez la chronologie des différentes réformes qui ont eu lieu. Berthoin n'est pas dans cette liste, c'est le socle, disons, la scolarité obligatoire à 16 ans. Et puis ensuite viennent création d'un bac technologique en 68, je vais y revenir, la création du collège unique en 75, qui permet d'accueillir la quasi-totalité des élèves de la 6e à la 3e, puis la création d'un bac professionnel, ce sera un des jolis sujets à étudier tout à l'heure, c'est la diversification des baccalauréats qui est corrélée à la croissance du nombre de bacheliers. Et puis ensuite, les objectifs successifs de fixation de 80% d'une classe d'âge qui doit atteindre le baccalauréat, ça date de 89. Et en 2005, une loi d'orientation qui fixe également un objectif de 50% d'une génération qui doit obtenir un diplôme d'enseignement supérieur. Donc on fixe un certain nombre d'horizons. On l'a révisé à la hausse à 60% et tout en ayant pour objectif de remanier probablement la relation entre le secondaire et le supérieur, mais ça, j'y viendrai plus tard. Et puis d'autres réformes qui sont mentionnées sur ce tableau, je ne vais pas toutes les détailler. En tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que cette durée médiane des études a doublé en 50 ans. Elle est passée de 7 à 14 ans. Et pour les plus âgés, la croissance du taux de scolarité s'est accélérée à partir des années 80. Et en 96, par exemple, pour prendre ce repère qui est à peu près situé dans la deuxième massification étudiante, plus de 4 jeunes sur 10 sont étudiants à 21 ans et encore 2 sur 10 à 23 ans. En 46, ça n'était le cas que de moins de 5 jeunes sur 100 entre 20 et 23 ans. Donc vous voyez, notre monde de la formation secondaire et supérieure s'est vraiment profondément transformé. C'est la création du baccalauréat technologique en 65 et sa mise en œuvre en 68 qui permet une progression importante du nombre de bacheliers jusqu'au milieu des années 80, alors que l'accès au baccalauréat général stagnait. Ensuite, ce sont les deux baccalauréats général et technologique qui progressent jusqu'au milieu des années 90, et puis eux-mêmes stagnent. Et c'est en fait la création d'un autre baccalauréat, le baccalauréat professionnel, qui crée à nouveau un mouvement de remise en avant et d'augmentation du taux de bacheliers. Et donc, c'est lui qui est responsable de l'essentiel de l'augmentation du taux de bachelier depuis à peu près 20 ans. Aujourd'hui, un bachelier sur deux est titulaire d'un baccalauréat général. Donc on le voit là, c'est une des leçons qu'il faut retenir au long de cette séance d'aujourd'hui, la diversification des filières a un effet propre sur l'augmentation et l'allongement de la scolarisation. Cette analyse de l'interaction entre augmentation de la scolarisation, du nombre d'élèves et sa diversification de cette scolarisation peut s'étendre aussi à la composition sociale, évidemment, des cohortes d'élèves et de bacheliers. Il y a un mécanisme de rattrapage. Les enfants de cadre sont déjà situés très haut depuis longtemps, je vais y revenir dans la proportion des réussites au baccalauréat, et les enfants d'ouvriers rattrapent peu à peu ce différentiel. Les élèves nés entre 84 et 88, pour 55% d'entre eux, 55% des enfants d'ouvriers atteignent le baccalauréat, 84% des cadres, et ce différentiel était de 61 pour les enfants d'ouvriers, de 21 pour les enfants d'ouvriers à 62 pour les enfants de cadre. Donc, vous voyez que l'écart se réduit, mais il demeure. Et en réalité, il se transforme aussi. Le type même de baccalauréat, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très différenciateur. Beaucoup plus de détenteurs d'un baccalauréat professionnel ou technologique sont enfants d'ouvriers. Ici, c'est la filière du baccalauréat professionnel. Les enfants d'ouvriers sont là. Ils sont 45% à être dans cette filière, à obtenir un baccalauréat professionnel parmi les enfants d'ouvriers, alors que les cadres sont 76% à obtenir un baccalauréat général. Et la hiérarchie des positions sociales est à peu près ordonnée avec la composition des filières du baccalauréat. Socialement, le baccalauréat général reste sélectif par rapport au baccalauréat professionnel qui est porteur, comme je l'ai dit, de la croissance et de la démocratisation. Donc, on le voit en 2014, par exemple, 45%, comme je l'ai dit, des enfants d'ouvriers sont bacheliers d'un baccalauréat professionnel, alors qu'ils ne sont que 32% à avoir un baccalauréat général. C'est l'inverse pour les cadres. Comme je l'ai déjà dit, les enseignants sont nos insiders. Ils ont des scores remarquables, évidemment, d'utilisation du système scolaire, de titre de parents et donc d'enfants d'enseignants. Les cadres se situent à peu près à la même hauteur, mais le baccalauréat S est extrêmement différenciateur. Vous voyez où se situent les ouvriers qualifiés, non qualifiés, ou les employés par rapport au score des cadres et des enseignants. C'est un résultat important parce que il a une force considérable sur l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur. On le verra plus tard et on le reverra dans les analyses assez précises que nous avons faites sur les coefficients des épreuves d'accès au concours d'accès aux grandes écoles par le concours, qu'on peut littéralement hiérarchiser. On peut hiérarchiser les écoles à travers les coefficients des épreuves en mathématiques, ce qui est une sorte d'horloge déterministe, si vous voulez. La formation scolaire et universitaire est une trajectoire longue dans la vie des individus. Au moins 11 ans s'écoulent entre le début et la fin de la scolarisation obligatoire, et cette durée est une durée minimale. Elle peut aller jusqu'à 25 ans, et même bien davantage dans le cas de formation supérieure longue doctorale ou des études de médecine. C'est donc un parcours qui est fait de toute une série de transitions qui sont réussies ou non, et les politiques scolaires ont progressivement abaissé puis éliminé la sélectivité des transitions de l'école au collège, puis du collège au lycée, et en augmentant, on l'a vu, la longueur des parcours scolaires d'un nombre croissant d'élèves. Alors, il y a un paradoxe que des collègues ont étudié, Marion Sels et Louis-André Vallée. C'est un paradoxe qui met en rivalité, en quelque sorte, une démocratisation quantitative et une démocratisation qualitative. Les deux auteurs dont je parle, Marion Sels et Louis-André Vallée, dans un article de 2006 dans les données sociales de l'INSEE, ont constaté ceci. Il y a bien une démocratisation quantitative. En un demi-siècle, avoir au moins le bac est devenu une situation majoritaire, alors qu'elle correspondait cette situation majoritaire était essentiellement celle d'obtenir ou non le diplôme du CEP, certificat d'études primaires. Et cette expansion a profité aux enfants de toutes les catégories sociales. Dans la génération 1900-1922, moins de 5% des fils et moins de 3% des filles d'agriculteurs, l'agriculture pesait encore beaucoup dans l'économie à ce moment-là, obtenaient au moins le baccalauréat, alors que c'est le cas de 70% des enfants d'agriculteurs dans la génération 74-76. Donc on ne peut pas contester cette démocratisation quantitative, elle est flagrante. Et il en va de même pour les ouvriers, je l'ai déjà dit. L'évolution est moins forte pour les enseignants, les fils d'enseignants et d'instituteurs, tout simplement parce qu'ils se situaient eux-mêmes déjà très haut dans la réussite scolaire et l'atteinte du baccalauréat. Il est tout de même remarquable de penser et de savoir que pour la génération des enfants nés en 1920-22, 73% des fils et 68% des filles d'enseignants obtenaient déjà le baccalauréat. Et ils sont 87 et 89% fils et filles dans la génération 74-79, donc 76, pardon. Donc vous voyez qu'il y a un mécanisme de plafonnement, mais on part de très haut depuis très longtemps déjà. C'est tout à fait étonnant. On comprend que le monde de l'enseignement soit un des grands socles de la société française pour plusieurs raisons, et à la fois comme producteur de savoir et transmetteur de savoir, mais aussi comme utilisateur du savoir à transmettre à titre privé. Alors, une fois cette démocratisation quantitative posée, il faut examiner une démocratisation qualitative. Comment donc les inégalités d'accès aux diplômes entre catégories sociales ont-elles été réduites et à quelle période? Et il y a un paradoxe que veulent résoudre les deux auteurs dont je parlais. D'une part, les inégalités d'accès aux diplômes selon l'origine sociale ont bien diminué. Ça, c'est établi, donc je n'y reviens pas, sur une cinquantaine d'années. Mais d'autre part, en prenant en compte les seuls diplômés de ce qui est maintenant la nouvelle frontière des études, c'est-à-dire les diplômés du baccalauréat, donc en se plaçant maintenant au point de bifurcation qui est le plus symbolique des performances de démocratisation scolaire, en fait, on voit que les inégalités d'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont augmenté entre les générations nées dans les années 20 et les générations nées au milieu des années 70. C'est un paradoxe, effectivement. Comment peut-on comprendre les deux faits simultanément? Alors, pour le faire, on peut procéder en trois temps, comme le font les auteurs. D'abord, on croise pour chaque génération le diplôme le plus élevé qui a pu être obtenu par chacun avec l'origine sociale. On ne distingue pas les diplômes, on dit diplômé ou non. Après tout, c'est une distinction qui est très importante. Qualifié ou non, pensez au débat actuel sur le taux de chômage. Le taux de chômage avec son incidence considérable sur les non-diplômés et les non-qualifiés, c'est évidemment une première distinction qui est intéressante. Le travail est fait. L'indicateur qui est utilisé ici... c'est un indicateur des inégalités d'accès au diplôme. C'est pas un taux d'accès au diplôme, c'est un indicateur d'inégalité d'accès. C'est un calcul de rapport de chance, qu'on appelle des odd ratios, entre les individus d'une génération qui sont d'origine sociale différente et qui peuvent accéder à un diplôme A plutôt qu'à un diplôme B. Voilà le coefficient d'inégalité qui est utilisé. Et on part d'une situation, on fixe le coefficient à 1 pour la première génération et on regarde comment ce coefficient se comporte. Il traduit donc ce coefficient à la force générale du lien entre origine sociale et diplôme dans une génération donnée. S'il est supérieur à 1, il y a une croissance des inégalités. S'il est inférieur, il y a une diminution. Donc on peut regarder ici, on voit comment le coefficient se comporte. Il a un caractère de plateau pendant une certaine durée qui correspond aux générations jusqu'aux années 30, nées en 35 à peu près, puis la décroissance s'amorce. Il est remarquable d'ailleurs de constater que une partie importante du progrès est réalisée avant même les grandes réformes éducatives qui visaient la démocratisation de l'école dans les années 60, la fin des années 50 et les années 60. C'est un point tout à fait intéressant. Et puis, si on prend la totalité des diplômes possibles et qu'on regarde le taux d'accès à au moins un diplôme, voilà le mécanisme, la courbe se comporte ainsi. Elle décroît ensuite assez lentement et elle décroît un peu plus dans les années 60, pour les générations des années 60. C'est l'effet cumulé des réformes scolaires progressives, mais avec ce simple indicateur-là, on voit que le mouvement est à une vitesse inégale et il a des pentes inégales. Ensuite, on peut regarder, pour résoudre ce paradoxe, on peut regarder comment on accède à un diplôme donné. Voilà l'exercice. Et donc, on croise à nouveau l'origine sociale des individus avec l'accès à un diplôme donné et on regarde comment se comportent les inégalités sociales face à cet accès à un diplôme donné. Et donc, là encore, vous voyez le mouvement général, il se comporte comme précédemment, il y a une décroissance des inégalités. Les inégalités d'accès ont décru au fil des générations. Donc, on est bien encore dans le cadre que j'ai indiqué tout à l'heure de démocratisation quantitative qui a un effet propre sur le taux d'accès à des diplômes, qu'on prenne le diplôme comme dans la première figure minimale ou bien, enfin, seuil, un diplôme minimal, ou bien maintenant des diplômes plus sélectifs. Mais quand on va regarder ensuite ce qui se passe au fil des transitions dans le système éducatif, cette analyse en termes de transition, elle nous vient notamment d'un article pionnier d'un sociologue américain qui s'appelle Robert Murray, MARE, en français M-A-R-E, Social Background and School Discontinuation Decisions, et puis un autre article de 81, le premier de 80, l'autre de 81, Change and Stability in the Educational Stratification, et qui consiste à étudier la carrière, la trajectoire scolaire comme une succession de transitions et d'analyser donc des taux, des probabilités de franchir ou non une transition et d'obtenir un diplôme du niveau supérieur. Et donc, là, on regarde la première transition, on regarde ceux qui ont obtenu au moins le CEP ou moins, et on voit là le comportement en termes de score d'inégalité. Ce qui est intéressant, c'est que pour les diplômes inférieurs au baccalauréat, on a une décrue des inégalités, mais c'est ici que les choses se renversent à partir du diplôme du supérieur. Pour les seuls titulaires du baccalauréat ou davantage, est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller dans le supérieur ou non? Et on voit qu'ici, pour ceux qui ont le baccalauréat, quel est le rapport de chance en termes sociaux, le score d'inégalité, on voit que le taux s'élève. Donc, il y a bien un problème d'inégalité sociale qui se reconstitue à un moment donné, quand il s'agit de franchir la transition du baccalauréat à l'enseignement supérieur. L'inégalité d'accès augmente en fonction de l'origine sociale. Donc, au total, l'analyse contenue dans les figures 1 et 2 montrait que les inégalités d'accès aux diplômes selon l'origine sociale ont bien diminué entre les générations sur un demi-siècle. Les diplômes sont devenus moins sélectifs, d'abord les premiers diplômes, puis le baccalauréat, mais l'expansion de l'enseignement en général propulse vers l'enseignement supérieur une part croissante d'une génération et les inégalités d'accès se translatent. Si on regarde uniquement ceux qui détiennent le baccalauréat et qui accèdent au supérieur, alors on voit que le score des inégalités s'élève. Quelle est l'explication de ce mécanisme ? Eh bien, avec l'expansion de la scolarisation, les titulaires d'un baccalauréat représentent une fraction croissante d'une génération, mais cette population de bacheliers est plus hétérogène à mesure qu'on avance dans le temps et que les effectifs augmentent, hétérogène en termes de performance, de motivation, d'aptitude individuelle. Et donc, au sein de cette population plus hétérogène, les chances sont socialement plus inégales d'aller jusqu'au diplôme du supérieur que parmi les bacheliers d'autrefois. C'est la conséquence d'un mécanisme sur lequel l'expansion scolaire a voulu agir. Dans les années 60, les enfants des classes populaires qui parvenaient à faire des études secondaires et éventuellement supérieures étaient beaucoup moins nombreux, mais ceux qui réussissaient à franchir ces épreuves étaient, comme on l'a écrit, c'est un concept qui est employé notamment par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, notamment dans leur livre « La reproduction », ces élèves-là étaient sursélectionnés. Un mot sur ce concept de sursélection, tel qu'il est utilisé par Bourdieu et Passeron. Ils examinent la maîtrise de la langue écrite et parlée des élèves dans l'univers scolaire, sachant que la compréhension et le maniement de la langue, c'est-à-dire un vocabulaire plus ou moins riche, une syntaxe plus ou moins élaborée, un système de catégories qui est dans la langue, qui fait partie des principes générateurs de l'aptitude au langage, plus ou moins complexe, et donc une aptitude au déchiffrement et à la manipulation de structures complexes, tout ça dépend pour une part de la complexité de la langue qui est transmise par la famille et ensuite développée dans l'univers scolaire. Et cette langue, c'est le point principal d'application du jugement des maîtres à l'époque de l'enquête de Bourdieu et Passeron. Et la sursélection, le concept de sursélection veut dire ceci, la sursélection des étudiants populaires permet d'expliquer l'annulation ou l'inversion de la relation entre origine sociale et niveau de réussite. En effet, les étudiants, des élèves des classes populaires qui ont réussi à avancer aussi loin que leurs camarades des classes supérieures ont dû évidemment accomplir plus, intérioriser davantage les ressources du langage et les maîtriser davantage, faire en quelque sorte plus d'efforts, mobiliser davantage de ressources que leurs camarades, mieux dotés socialement. Et donc, ce franchissement des épreuves les dote d'une capacité qui est plus homogène et qui permet d'expliquer que leur réussite scolaire, leur performance scolaire peut être équivalente à celle d'enfants mieux dotés socialement. Et l'analyse ici s'applique, dans le cas des travaux de Bourdieu et Passeron, de mécanismes de sursélection, cette analyse s'applique à un système scolaire qui ne conduisait pas du tout la quasi-totalité d'une génération jusqu'à la fin des études en collège et ensuite une majorité jusqu'au bac. Dans les années 90 et 2000, c'est très différent. Les élèves des classes populaires franchissent en beaucoup plus grand nombre les premières transitions. La scolarité est devenue obligatoire, donc le franchissement de la première transition, c'est-à-dire l'entrée en sixième, est quasi totale. Jusqu'à la troisième, la très grande majorité des élèves vont jusque-là, puisque ça fait partie du principe de la scolarité obligatoire. Mais ces filières ne sont plus sélectives. Mais évidemment, à partir pour ceux qui sont parvenus au bac, il y a un effet de rappel des ressources sociales pour s'engager dans l'enseignement supérieur. Et pour comprendre ce phénomène-là, on dispose d'enquêtes longitudinales. C'est une ressource extrêmement précieuse des sciences sociales que de suivre les individus dans le temps. On observe donc leurs résultats scolaires, les taux de passage dans les transitions clés, l'avance ou le retard de scolarité et les performances. Et comme on a les caractéristiques sociales de ces élèves, on dispose donc d'un excellent outil d'analyse des inégalités scolaires et des facteurs, au moins des facteurs exogènes de la réussite du parcours aux différents niveaux de diplôme. Je parle de facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs qui ne sont pas endogènes, autrement dit des facteurs qui ne sont pas imputables à l'organisation même du travail de l'élève dans sa classe et dans son établissement, ni des facteurs imputables aux caractéristiques des enseignants, ni des facteurs caractéristiques des pairs de l'élève, des camarades de classe de l'élève, et qui varie aussi avec la réussite scolaire. Ces sujets-là sont devenus des sujets aussi très importants de la recherche. Quel est l'effet établissement? Quel est l'effet des pairs? Les analyses longitudinales permettent essentiellement d'abord de mesurer les relations entre l'origine sociale des élèves, leur parcours scolaire et leurs chances de réussite aux différents niveaux et aux différentes transitions. Alors, c'est aussi un travail sur lequel je vais m'appuyer un instant qu'ont réalisé à nouveau Louis-André Vallet, qui est mon collègue sociologue, actuellement directeur de la Revue française de sociologie, et un de ses étudiants, Mathieu Hichoux. Ils ont étudié deux enquêtes. Ils ont pris des données de deux enquêtes, un panel de l'INED qui était constitué entre 62 et 72 et qui suivait à peu près 17 000 élèves, qui étaient nés en 1951 et qui quittaient l'école élémentaire en 62 pour entrer dans ou non dans l'enseignement secondaire. À l'époque, la transition n'était pas automatique. Puis, donc, on examine les transitions des parcours de ces élèves-là, transition de l'école élémentaire vers la classe de 6e, transition de la classe du collège, de la classe de 3e vers le lycée, c'est-à-dire la seconde, et la troisième transition, c'est transition du baccalauréat général vers l'enseignement supérieur. À l'époque, le baccalauréat professionnel et technologique n'existait pas ou commençait à exister tout juste, donc on se fixe sur le baccalauréat général. Et puis ensuite, il s'agit de développer une comparaison avec un autre panel qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale et qui est observé entre 1995 et 2006 et qui concerne aussi 17 000 élèves nés en 1984 et qui entrent en 6e en 1995. Troisième panel a été constitué en 2007, d'ailleurs, et dont l'exploitation a commencé en 2014, je crois. Donc, on dispose de deux grands échantillons longitudinaux qui sont séparés d'une quarantaine d'années. Alors, dans le système scolaire des années 60, qui est encore largement organisé en filières, seuls 59% des sortants de l'école élémentaire entraient en classe de 6e. Et vous avez la proportion à chaque transition de la cohorte qui reste en jeu dans l'avancement de la carrière scolaire. Vous avez le taux de transition et ensuite qu'est-ce qui reste de la cohorte de départ. Tout simplement, on applique les 52% d'entrée en seconde, 59% entrent en sixième, et puis parmi ceux-là, il en reste 52% qui vont entrer en seconde, c'est-à-dire 31% de la cohorte initiale. 52% de 59%, ça fait 31%. Et obtiennent le baccalauréat parmi ceux qui sont entrés en seconde, 55%, c'est-à-dire 18% de la totalité de la cohorte initiale. Et l'entrée dans le supérieur, parmi ceux qui ont obtenu le baccalauréat général, les trois quarts vont entrer dans le supérieur, mais ça ne fait plus que 15% de la cohorte initiale. Donc vous voyez, le mécanisme de raisonnement consiste à observer un amaigrissement successif de la cohorte initiale au fil des transitions et de regarder quels sont ces taux de transition, puis d'étudier quelles sont les chances en termes, évidemment, d'atouts sociaux pour franchir les épreuves successives. Les chiffres qui concernent la cohorte des années 95-2006 sont très différents. On entre en quasi-totalité en sixième, donc c'est l'effet des grandes politiques scolaires, et donc le taux est de 97,5%. et l'entrée en seconde est elle-même à un taux supérieur parmi ceux, la quasi-totalité, 64% vont entrer en seconde, donc franchissent après la fin de la période de la scolarité obligatoire, on a les deux tiers de cette cohorte qui va entrer en seconde. Ça fait un taux de, par rapport à la cohorte de départ de 62%. Et puis obtiendront le baccalauréat 50% de ces 64%, et on a donc un score de 31%, etc. Et tous ces scores sont évidemment très supérieurs à ceux de la cohorte des années 60, mais le mécanisme est toujours le même. C'est-à-dire, on observe la diminution progressive. La représentation qu'ont donnée Ichou et Vallée ici est très suggestive. C'est à la fois des effectifs. Donc, on a la taille relative en termes d'origine sociale des élèves, la taille des groupes pour la première transition en 62, c'est-à-dire l'entrée en sixième. On a la taille des groupes et la proportion de ceux qui franchissent la première transition. Donc, vous avez un groupe des classes populaires qui est évidemment beaucoup plus important en nombre d'élèves que et les classes moyennes aussi que les classes supérieures, par définition, mais les taux, évidemment, de transition sont beaucoup plus faibles. Et on a une représentation graphique très efficace ensuite, en fonction de l'origine sociale des élèves, de la chance de franchir la deuxième puis la troisième transition, l'entrée en seconde et l'entrée dans le supérieur. Et donc, vous voyez le phénomène de diminution progressive au fur et à mesure qu'on applique les taux de transition, les diminutions progressives des effectifs et l'inversion de la composition du groupe des élèves une fois qu'on est dans la transition ultime, c'est-à-dire l'entrée dans le supérieur. Ce sont les élèves des classes supérieures qui sont majoritaires en effectifs. Et les effectifs des enfants d'ouvriers, c'est un point que les sociologues rappellent volontiers et sans arrêt, enfin en sciences sociales en général, c'est les effets de composition sont absolument essentiels à contrôler en permanence dans toute analyse de ce type, et on voit pourquoi.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre-Michel Minger, la production du savoir, carrière, discipline et organisation.
Donc, on voit bien le résultat. On a une augmentation générale des chances de transition. Et en même temps, on a des écarts qui sont importants, et donc il faut analyser ces chances de transition en fonction du milieu social. Quand on l'examine, on voit qu'il y a toujours plus de la proportion des élèves dans la cohorte de 1962, la proportion des élèves qui réussissent chacune des transitions. C'est toujours plus de 80% des enfants des classes supérieures et c'est toujours moins de 60% des enfants de classe populaire. Comme ces transitions s'emboîtent, je viens de le dire, les enfants d'ouvriers ne constituent plus, qui constituent la moitié des effectifs totaux dans l'entrée en sixième, n'en constituent plus qu'un cinquième dans la dernière transition. Et dans les années 2000, la première transition a disparu, par définition, puisque tous les élèves entrent en sixième, mais voilà les résultats pour la génération la plus récente. On a encore la même structure de chance inégale s'applique à la transition numéro 2, mais avec des scores, des différenciations moins sévères. En revanche, voilà la surprise. La différence des taux de transition elle n'existe plus des enfants des classes populaires aux enfants des classes supérieures n'existe plus dans la troisième transition. Vous voyez, le score, il varie assez faiblement de 65 à 61%. Et c'est ça, une des énigmes, évidemment, qu'on veut résoudre. C'est qu'est-ce qui se passe ? C'est encore une fois pour entrer dans la machinerie de la des trajectoires scolaires, des mécanismes de sélection scolaire et sociale, il faut expliquer ce fait. Vous voyez l'écart en l'entrée en seconde, c'est des marches d'escalier, et ici, on n'a plus cette différence. Alors, pour l'expliquer, On peut revenir sur la première enquête du panel. C'était une enquête d'Alain Girard et Henri Bastide. Et ils avaient, pour analyser ces mécanismes qui sont sous-jacents à ces distributions de données, ils avaient deux mécanismes possibles. Premièrement, quel est le niveau de performance scolaire des élèves, c'est-à-dire leurs notes, leurs évaluations par les professeurs, dans des épreuves scolaires ou en des évaluations globales. Ce niveau de performance est corrélé à l'origine sociale. Donc, évidemment, les chances pour un élève d'entrer en sixième à l'époque dépendent fortement de ce niveau de réussite scolaire qui est lui-même relié à l'origine sociale. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est à l'œuvre. À performance scolaire égale, deux élèves issus d'origine sociale différente avaient des chances différentes d'avancer dans le parcours scolaire. Encore une fois, à performance scolaire égale. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'orientation, qui en quelque sorte pouvait priver un bon élève de milieu populaire d'une carrière scolaire longue en raison des choix d'orientation de la famille ou éventuellement aussi de l'établissement scolaire. Donc le milieu social agit de deux manières. Il agit sur la performance et sur l'orientation. L'orientation voulant dire la capacité de franchir les transitions dans un parcours scolaire. Et c'était bien déjà cette idée d'orientation, c'est-à-dire de franchissement des transitions, que je mettais en avant tout à l'heure dans les paradoxes de la démocratisation. La politique scolaire a essentiellement agi sur ce mécanisme d'orientation, c'est-à-dire de capacité de franchir des transitions, en rendant l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, en favorisant l'allongement de la scolarité par sa politique d'offre et le soutien à la demande scolaire. Et donc les familles ont vu évoluer leurs décisions d'orientation en fonction de la valeur croissante des études pour l'accès à l'emploi et en fonction du rendement salarial des diplômes. Mais cette politique scolaire agit moins directement et les résultats abondamment chroniqués des enquêtes internationales de type PISA le disent et essaient de le mesurer. Elle agit moins directement sur le premier mécanisme responsable des inégalités, c'est-à-dire la performance et sa mesure, qui est le produit de l'interaction entre le travail professoral, le travail des élèves et le système de notation. Donc la question devient celle-ci. Les transitions, c'est-à-dire l'orientation, sont plus aisées pour des élèves de milieu populaire et diminuent l'intensité du mécanisme socialement sélectif de l'orientation qui est lié aux décisions des familles. Autrement dit, le système scolaire agit en quelque sorte comme un tuteur des choix d'orientation des familles pour favoriser l'allongement de la scolarité. Mais quel est l'effet de cette politique sur les performances ? C'est une grande question. Alors, voici un tableau que je tire du même article de Mathieu Ichou et Louis-André Vallée, qui présente la performance selon l'origine sociale des élèves, c'est-à-dire la moyenne des notes, des appréciations obtenues pour chaque groupe d'élèves, le groupe des enfants, des élèves qui sont d'origine des classes supérieures, des classes moyennes ou des classes populaires, aux différentes transitions. Et ce sont donc, c'est une analyse qui utilise la notation, les performances aux épreuves, et donc les notes obtenues, on l'a transformée en une variable centrée réduite, comme on dit. L'opération de centrage, c'est substituer à une valeur, une autre qui est centrée sur la moyenne arithmétique de la distribution. Et la réduction consiste à diviser cette moyenne par l'écart type de la distribution. Enfin, je passe les détails techniques, mais ce qui veut dire que le total est toujours égal à zéro. C'est le principe même de la valeur, mais ça permet de manipuler les notations, les systèmes de notation en centrant autour de la moyenne totale. Et les écarts veulent dire quelque chose, c'est-à-dire que, évidemment, les classes supérieures, les performances scolaires sont toujours supérieures dans les classes supérieures, les enfants des classes supérieures, à celles des classes populaires, et le score est élevé, l'écart est élevé dans cette variable centrée réduite. Et vous voyez que l'intérêt de la démonstration, c'est de montrer que cet écart diminue, il est de 0,6 si on additionne les deux valeurs extrêmes, Et il faiblit au fur et à mesure qu'on franchit les transitions. Donc c'est bien le mécanisme de sursélection dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux des enfants qui ont réussi, des élèves qui ont réussi à franchir les transitions dans les classes populaires, ont des notes qui se rapprochent progressivement de celles de leurs camarades, des enfants des classes supérieures. Et donc l'école fait son travail. On passe d'un score d'une différence de 0,6 ici à une différence de 0,06. On est divisé par 10 l'écart de performance. Mais elle fait son travail sur ceux qui sont parvenus à survivre dans le système et à franchir les épreuves. Et on réplique l'exercice pour la génération la plus récente et on observe les écarts. Les écarts ici sont importants. On voit que les écarts diminuent de la transition numéro 2, c'est-à-dire l'entrée en troisième, à la transition numéro 3, c'est-à-dire la terminale et le passage vers le supérieur. Donc on a bien un effet qui est homologue de celui-là. Les performances deviennent plus homogènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les écarts entre les enfants des classes supérieures et des classes populaires ont augmenté dans la génération récente. Et ça, c'est un point évidemment essentiel. Ça veut dire que l'écart de performance est plus ample dans la période récente qu'en période ancienne. Autrement dit, on a là exactement ce qu'il faut pour démontrer l'interaction des deux mécanismes. L'orientation, c'est-à-dire la capacité de franchir une transition, et la performance, et l'effet de l'un sur l'autre. La propension à réussir une transition vers la troisième, vers le baccalauréat, vers les études supérieures, joue un rôle moindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en raison de la propulsion de la politique scolaire, mais c'est l'autre mécanisme qui gagne en importance. L'effet de l'origine sociale sur la performance scolaire à transition donnée. Et donc, on peut dire qu'en quatre décennies, l'inégalité devant l'école a partiellement changé de nature et qu'elle est devenue apparemment plus méritocratique. C'est ce qu'exprimait bien Antoine Prost dans un article de 97. Et il dit, je le cite, « Avant les réformes, les victimes de la sélection scolaire pouvaient en rendre responsable le système qui ne leur avait pas donné leur chance. C'était des mécanismes d'inégalité sociale. » En leur donnant apparemment leur chance, mais sans combattre efficacement ce qu'il appelle les pesanteurs sociologiques, les réformes des collèges ont rendu les élèves responsables de leur échec ou de leur succès. Ces réformes ont transformé en mérite ou en incapacité personnelle ce qu'auparavant on aurait imputé au hasard de la naissance. La charge des inégalités devant l'école n'incombe plus à la société, mais aux individus. Et de fait, la privatisation de l'investissement dans la carrière scolaire est de plus en plus visible avec les efforts des familles pour compléter ce qu'offre l'école par toutes sortes de compléments latéraux, des soutiens scolaires, etc., etc., des mobilisations. Il y a aujourd'hui toutes sortes de recherches sur les mobilisations des familles de plus en plus précocement dans la carrière scolaire et la trajectoire des enfants qui sont assez, assez éclairantes. C'est l'objet notamment d'ouvrages récents très nombreux aux États-Unis. Ce point, la performance qui prend le pas en termes et qui porte la charge essentielle des inégalités sociales, alors que l'orientation a été facilitée par la politique, c'est un résultat important qui montre comment l'école peut faire bouger les lignes, mais ne contrarie pas toutes les lois de gravitation de la société. Et donc l'histoire de l'expansion du système scolaire peut se résumer à trois mécanismes. Un mécanisme quantitatif d'augmentation des taux de scolarité, des pourcentages d'une génération qui atteignent des points de plus en plus élevés de transition et de bifurcation dans la hiérarchie des niveaux scolaires. Il y a un mécanisme qualitatif de diversification des filières d'études à partir de l'entrée au lycée, c'est le thème de la diversification des baccalauréats. Et il y a enfin une interaction entre l'élévation du niveau de formation et du niveau de formation de base et l'orientation des individus dans la diversification des études suivies. La politique scolaire veut agir sur les deux mécanismes. Elle cherche à augmenter à allonger la scolarité des élèves jusqu'à des points de transition et d'orientation de plus en plus élevés. Elle veut aussi agir sur l'augmentation de la performance scolaire, qui est, elle, déterminée par d'autres raisons que les choix d'orientation, notamment ce qui se passe dans les établissements, la production pédagogique. Il est donc, en fait, il est plus facile de déplacer les points de bifurcation que d'augmenter la performance scolaire et de réduire les inégalités dans la performance scolaire. Car l'élévation de la performance scolaire est le produit de toute une série de facteurs qui sont beaucoup plus coûteux à manier et qui supposent notamment un bon design organisationnel de l'enseignement. À cet égard, les enquêtes PISA de l'OCDE sont devenues quasiment, pour le meilleur ou pour le pire, des prescripteurs de benchmarking organisationnel. Et donc, au total, les inégalités scolaires devant la scolarisation secondaire, et d'ailleurs supérieure, je vais y venir, se sont transformées. L'élévation du niveau de formation est assortie d'une diversification des filières. Les chances d'obtenir un baccalauréat sont moins inégales, mais la valeur des différents baccalauréats et des études auxquelles ils conduisent est fortement hiérarchisée. Et la diversification est devenue le foyer principal de la production de trajectoires inégales de formation. Je vais en donner une dernière preuve ici. C'est le calcul du taux d'échec dans des études supérieures en fonction de la série du baccalauréat. C'est un résultat qui vient en quelque sorte mettre la conclusion de mon analyse sur la partie du secondaire et m'offrir la transition vers l'enseignement supérieur. Vous voyez ici l'ensemble des bacheliers et le taux d'échec selon la série du baccalauréat. Le taux d'échec est de 20, un peu moins de 20% pour l'ensemble des bacheliers, mais vous voyez à quel point il varie considérablement selon les types de baccalauréat. Le baccalauréat professionnel, les taux d'échec sont de près de 55%. Les élèves qui ont le baccalauréat et qui ont la possibilité, qui ont le droit d'entrer dans l'université et dans les études supérieures, n'auront pas de diplôme. Plus d'un sur deux n'auront pas de diplôme. Et c'est un des grands problèmes qui est posé aujourd'hui à un défi de la troisième massification qui s'annonce, c'est comment modifier évidemment ce mécanisme-là, ce taux d'échec et d'autosélection qui est considérable. On a déplacé les points de bifurcation de plus en plus loin, mais voilà un signe que, au-delà du baccalauréat, évidemment les phénomènes de sélection, d'autosélection et d'échec sont considérables. Mais que valent ces études au juste ? Que vaut l'accès au bac ? Que vaut l'accès à un diplôme d'enseignement supérieur ? Et c'est évidemment un grand sujet, c'est un sujet à la fois d'expansion de la société vers une économie de la connaissance. Augmenter le taux de diplômés, c'est un objectif important. Le niveau d'éducation générale de la population, diminuer les inégalités devant cette ressource majeure de la carrière, de l'accès à l'emploi devant l'éducation, c'est évidemment un sujet majeur. Mais c'est aussi un sujet majeur au sens où si tout le monde est davantage diplômé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène d'inflation et donc de dévalorisation des diplômes ? C'est un sujet majeur à la fois pour l'évolution de la situation d'une société, puis aussi pour les comparaisons internationales. Et pour l'analyse de l'exposition au chômage. Bien sûr, quand on étudie la valeur des diplômes, il existe d'autres analyses possibles qui sont pas simplement les gains personnels tirés de l'éducation, mais aussi des gains publics, la défense de la démocratie, la tolérance aux différences, l'engagement dans des actions publiques, dans des causes de bien public. Voilà des questions évidemment, mais je ne vais pas mesurer ces effets non privés et ces rendements non privés, ces externalités de l'élévation des niveaux de formation. Il y a sur ces sujets-là d'excellents travaux, notamment un article que je vous recommande de Oreopoulos et Salvanes qui s'appelle Priceless, The Non-Pecuniary Benefits of Schooling, les bénéfices non monétaires de l'éducation et de la scolarisation. Alors, l'analyse des rendements d'éducation porte essentiellement sur la rémunération du travail et sur la contribution du niveau d'éducation à l'explication de la rémunération et des écarts de rémunération et donc de la structure des salaires. La variable principalement responsable des différences des rémunérations est bien la formation diplômée et qualifiante qui est obtenue par un individu, formation et diplômes qui sont exploités une fois qu'on a accès à l'emploi. Mais à cette formation s'ajoute aussi, du fait même de l'exercice de l'activité professionnelle, une accumulation d'expériences et de compétences qui sont acquises sur le tas, on the job. C'est cette double modalité d'acquisition des compétences qui explique, selon la majorité des enquêtes qui sont menées et qui sont extraordinairement nombreuses, à peu près 30% de la variance des salaires. Si on analyse la dispersion des salaires, on peut expliquer cette dispersion pour un tiers par la contribution du diplôme. Évidemment, puisqu'on explique un tiers, c'est que d'autres mécanismes entrent en jeu dans la formation des rémunérations et les différences de rémunération. Ils ont trait aux caractéristiques de l'individu. Cet individu ne se réduit pas à sa formation et à son expérience professionnelle, aux caractéristiques de l'emploi qui est exercé, les caractéristiques de la firme de l'organisation où travaille l'individu, le secteur, la taille, la localisation, le type de management, etc. Pour mesurer la valeur d'un diplôme, en fait, on peut procéder d'une manière assez simple, sans modéliser, sans passer par la courbe de Mincer, l'équation de Mincer, en situant simplement, en se demandant où se situent les détenteurs des différents diplômes dans la hiérarchie des salaires. En quelque sorte, c'est une mesure ordinale, c'est-à-dire par rang, par étage, de la valeur des diplômes qui ne dit rien sur leur rendement salarial propre, mais qui dit où on peut se situer dans l'échelle des revenus d'une société. Un même diplôme peut procurer une position moins enviable dans la hiérarchie des salaires d'une période à une autre, mais si les salaires ont progressé, ce diplôme peut procurer un meilleur salaire absolu dans la deuxième période, alors que sa valeur relative a baissé. Vous êtes mieux payé, mais dans la hiérarchie des salaires, vous êtes situé plus bas. C'est ce qui peut arriver, et notamment du fait du mécanisme d'inflation des diplômes ou de multiplication des diplômes. Alors, c'est exactement cette approche qu'ont adoptée donc Glaude et Baudelot dans leur article. Et ils situent ici, ils donnent la distribution des 10% d'individus les moins payés. Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme en 70, en 77, en 85, et c'est fait pour les hommes et pour les femmes. Et parmi ceux qui sont les moins payés, on trouve progressivement aucun diplôme. Ils ne sont que 15% ici en 70 et ils sont 30% en 85. Donc, effectivement, l'absence de diplôme est de plus en plus pénalisante et augmente vos chances d'être dans le bas de la hiérarchie salariale. Quand on relève un peu le critère, on prend les 25% des salariés les moins payés et on regarde quel est leur niveau de diplôme. On trouve là 50% des non-diplômés d'abord en 70 et 56% en 85. Et en revanche, on voit les effectifs de ceux qui sont titulaires d'un BEPC, par exemple, augmenter aussi, mais moins vite. Mais ils augmentent néanmoins. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de rendement moindre du diplôme, puisque les diplômes de type CAP, BEPC vous situent davantage dans les moins bien payés en 85 qu'en 70. Et si on relève encore et qu'on prend la moitié de la population active qui est la moins payée, on distribue la population en deux en fonction du niveau de salaire, on voit que, là encore, les variations vont à la hausse. Le bac général, vous aviez 17% d'individus titulaires du bac général situés dans cette catégorie en 70 et ils sont 21% en 85, etc. Et le BEPC, là encore, le taux augmente. Donc, il y a un phénomène de perte relative de valeur du diplôme et, à l'inverse, quand on va s'élever dans la hiérarchie des niveaux de revenus, on va voir le rendement des différents diplômes. Celui qui reste invariablement le plus rentable, ce sont les deux de médecine, des filières sélectives, la médecine et les diplômes des grandes écoles. Là, les scores varient peu ou et vous procurent toujours un avantage élevé. Vous avez 100% de chance d'être dans les 25% des mieux payés avec un diplôme des grandes écoles ou des filières de médecine. Et ici, ce sont dans les 10% des mieux payés, vous êtes 92% en 70 et 92% en 85 et en 80 et dans les 5% des mieux payés, la proportion des diplômés des grandes écoles s'élève assez spectaculairement. Donc, c'est une des représentations possibles de la valeur de la formation. C'est la représentation par la performance relative des diplômes qui se dégrade sous l'effet de l'accroissement des diplômes et des hauts diplômes. Les diplômes les plus modestes sont proportionnellement plus nombreux qu'il y a 15 ans, à figurer dans le quart des salariés les moins payés. C'est un déclassement qui peut être objectivé. Mais maintenant, on peut aller dans un sens différent et regarder ce que vaut non pas la valeur relative, mais la valeur absolue d'un diplôme. Alors, il y a dans ce diplôme un élément qui est essentiel à prendre en compte, c'est le rendement de l'expérience professionnelle. C'est un élément qui n'est pas pris en compte directement dans ce genre de tableau-ci et qu'on peut mesurer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne à mesure qu'on exerce un emploi. La théorie du capital humain sur laquelle est basée l'équation de Münzer contient en effet cette hypothèse essentielle. L'expérience professionnelle permet d'acquérir ou de consolider des compétences, mais l'écoulement du temps contribue aussi à déprécier les compétences. Quand l'individu s'éloigne de l'état le plus récent des savoirs techniques ou fondamentaux qui lui a été transmis dans sa formation initiale. Et cette variation à la hausse ou à la baisse du stock des connaissances et des compétences dessine un profil qui est caractéristique des courbes de carrière salariale, qui est un profil concave. La valeur de l'accumulation d'expérience augmente beaucoup au début de la vie active et se réduit beaucoup à mesure que la perspective de la retraite se rapproche. Il y a donc un point d'inflexion dans les courbes ou de réduction de l'augmentation. Toujours dans l'article de Baudelot et Glaude, qui contient beaucoup de graphiques très illustratifs, et ces données ont été répliquées ensuite, et on trouve des résultats très, très convergents. On a le rendement de l'expérience professionnelle de ceux qui ont la formation la plus longue, qui sont sortis du système de formation à 26 ans, qui sont sortis à 16 ans, et ici, les données le permettaient, ceux qui sont sortis à 11 ans, à l'époque où la scolarité n'était pas encore obligatoire jusqu'à 16 ans. Et voilà le rendement de l'expérience professionnelle. Il augmente bien au début de la vie active, et puis ici, pour ceux qui ont la formation jusqu'à 16 ans, il est plat ensuite, donc il n'y a plus de carrière salariale, tandis que le phénomène de la carrière salariale est fortement associé au niveau de diplôme. Avoir le sentiment que s'être formé, c'est aussi pouvoir en tirer un bénéfice en se développant, y compris par sa rémunération, mais aussi par l'acquisition de compétences, c'est directement corrélé au niveau de diplôme initial. Et cette courbe s'infléchit à peine, mais elle devient beaucoup plus, la pente devient beaucoup plus plate dans la dernière partie de la vie active. Mais le phénomène de la carrière salariale sur laquelle a été basé tout un ensemble de pactes sociaux dans notre société, c'est-à-dire l'ancienneté doit être rémunérée, il est contenu dans ce genre de représentation et de courbes très étagées. Et les écarts augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Donc le temps n'est pas rémunérateur de la même manière, évidemment, en fonction du diplôme.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Michel Minger sur la production du savoir, carrière, discipline et organisation, le 22 janvier 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, le cours complet, notamment la vidéo où le sociologue présente de nombreux graphiques et tableaux, ainsi que l'ensemble de ses cours. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivons en compagnie de Pierre-Michel Minger la production du savoir suite. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.